Vous écoutez On lit pour vous.
Il y a 90 ans, Maurice Duplessis devenait le chef. Un texte de Félix Ouellette paru le 16 août 2026 dans Radio-Canada. En octobre, la première ministre Christine Fréchette tentera d'être reconduite dans ses fonctions en tant que députée de Trois-Rivières. Il y a 90 ans, le 17 août 1936, c'est un député de Trois-Rivières qui devenait premier ministre. Point tournant de la politique provinciale, Maurice Duplessis, chef de l'Union nationale, met alors fin à 39 ans de pouvoir ininterrompu des libéraux. Le 18 août 1936, la une du Nouvelliste ne laisse place à aucune nuance. L'Union nationale aux portes du pouvoir. Quelques pages plus loin, un journaliste rapporte un souffle de délire. Jamais Trois-Rivières ne fut témoin d'une démonstration aussi vibrante et aussi exaltée. La veille, le 17 août, les troupes de l'Union nationale ont réalisé un tour de force en remportant 5 fois plus de sièges que le Parti libéral. Maurice Duplessis met la main sur 76 sièges à l'Assemblée législative, aujourd'hui l'Assemblée nationale, contre 14 pour Adélard Godbout. Aucun chef politique n'avait jamais remporté une victoire aussi décisive au Québec. Le nouveau premier ministre de la province est acclamé par une foule de plus de 30 000 personnes qui envahit le terrain du séminaire pour entendre M. Duplessis, que la ville des Trois-Rivières venait d'élire par la plus forte majorité jamais donnée à un député provincial depuis la Confédération, relate le Nouvelliste. Maurice Duplessis a remporté la mise en faisant le parti d'un parti neuf. Fin stratège, il s'est allié à des libéraux mécontents de l'Action libérale nationale pour transformer son parti conservateur en une nouvelle formation politique, l'Union nationale. Une fois au pouvoir, l'autoritarisme de Duplessis allait lui valoir un surnom, le chef, tout simplement. Changement de garde. Un an plus tôt, en 1935, Maurice Duplessis avait frôlé la victoire contre Louis-Alexandre Taschereau. Celui-ci était au pouvoir depuis tout près de 16 ans. Ce sera finalement le Comité des comptes publics qui plantera le dernier clou dans le cercueil électoral des libéraux. Maurice Duplessis fait une sorte de véritable procès à l'administration Taschereau. C'est l'équivalent de la commission Charbonneau. Il déniche toutes sortes de malversations. À travers ça, il devient une sorte d'entertainer assez formidable, explique le journaliste et historien Jean-François Nadeau. En juin 1936, la pression devient forte au point où Taschereau est forcé de démissionner de son poste et de céder la place à Adélard Godbout, qui n'aura que quelques mois pour faire oublier le bilan de son parti. En 1936, Duplessis va vouloir garder le nom « Union nationale » parce que sa marque de savon, le Parti conservateur, ne passe plus, explique le professeur d'histoire Jonathan Livernois, auteur du livre « La révolution dans l'ordre, une histoire intellectuelle du duplessisme ». La population était prête pour un changement de régime au Parlement. La crise des années 1930 frappait durement les classes populaires. L'électorat jugeait que la réponse du gouvernement manquait de fermeté, alors que les conditions de vie des gens continuaient de se dégrader. Dans certains quartiers populaires de Montréal, on arrache les moulures des portes parce qu'on n'a plus de quoi se chauffer. Il y a un vélodrome à ce moment-là au Parc Jarry à Montréal et on en vole le bois pendant l'hiver. Il n'y a aucun mécanisme public pour se défendre contre les misères sociales d'un coup de chômage excessif, ajoute Jean-François Nadeau, qui animera « Duplessis maître chez lui », un balado disponible sur Audio en septembre. Mais les promesses réformatrices du mandat 1936-1939 de Duplessis seront loin d'être tenues. Une révolution dans l'ordre. Si Maurice Duplessis a réussi à incarner le changement le temps des élections, une fois élu, il prend un virage conservateur. Pendant la campagne, l'Union nationale avait promis de grandes réformes pour plaire à une partie de l'électorat. Elles seront rapidement écartées une fois Duplessis au pouvoir. Une de ses grandes promesses était la création d'une société d'État qui nationaliserait les compagnies d'hydroélectricité, alors détenues par des capitaux anglo-canadiens et américains. Il avait même recruté le docteur Philippe Hamel, grand propagandiste de l'idée, qui avait accepté d'être son candidat vedette. Une fois au pouvoir, il lui offre le poste de président de la Chambre pour l'écarter des communes. Duplessis s'est servi de l'Action libérale nationale. Il a roulé les principales figures du parti dans la farine. Il s'est servi de leur programme, mais une fois au pouvoir, il va les décevoir à plusieurs égards, relate Jonathan Livernois. En 1952, le ministre unioniste qui deviendra un jour premier ministre à son tour, Daniel Johnson, attribuait à Maurice Duplessis le mérite d'avoir fait une révolution dans l'ordre. Une formule qui décrit l'approche de son conservatisme. Le conservatisme de Duplessis est vraiment traditionnel. Ce n'est pas un réactionnaire ou quelqu'un qui souhaite revenir en arrière. C'est quelqu'un qui croit que le changement doit se faire progressivement et en respectant les traditions. Par exemple, il s'oppose au droit de vote pour les femmes, mais, une fois qu'il est adopté, il le conserve, explique l'historien et chargé de cours à l'UQTR, Alexandre Dumas. Une formule qui fonctionne bien chez de nombreux électeurs, d'autant plus que Maurice Duplessis n'est pas opposé au progrès technique. Il va effectuer un grand rattrapage en électrifiant les régions rurales, par exemple. Il a cette capacité d'allier un passé très réconfortant et la modernité. On le voit notamment à Québec et à Montréal où il va faire construire deux stades de baseball hyper modernes pour l'époque. Ce n'est pas juste le passé pour le passé, mais il fait tout ça avec les réflexes politiques d'un homme d'une autre époque, estime Jonathan Livernois. Un des pans devenus représentatifs du conservatisme de Duplessis est le rapport que le chef entretient avec l'Église. Il aurait lui-même dit que les évêques mangeaient dans sa main. Chez Duplessis, tout revenait à la politique, comme l'explique Alexandre Dumas. C'est quelqu'un qui avait une foi sincère, il n'y a pas de doute. Par contre, on a beaucoup exagéré son rapport à la religion. Il était pieux, mais il choisissait les commandements auxquels il souhaitait obéir. Il aimait se faire voir en compagnie des évêques, faire bénir ses constructions et donner l'impression que ses lois étaient inspirées par l'Église, mais, au final, il reste quand même un politicien avant tout. Citoyen des Trois-Rivières, chef de sa province. Trois-Rivières et Maurice Duplessis étaient indissociables. Son père, Néré le Noblet Duplessis, avait été maire de Trois-Rivières, juge et député conservateur de la circonscription voisine Saint-Maurice. En 1936, l'élection d'un premier ministre originaire des Trois-Rivières, comme on le disait à l'époque, enorgueillit les Trifluviens. Duplessis devient l'incarnation de la région. On sentait parfois un complexe d'infériorité de Trois-Rivières devant Montréal, la grande ville anglophone, et Québec, souvent jugé snob. C'est une élection qui symbolise un peu la revanche des régions. On a donné un prestige particulier à Trois-Rivières grâce à Duplessis. Évidemment, les gens l'ont apprécié, explique Jonathan Livernois. Dans sa ville natale, il connaissait à peu près tout le monde. Le bon terme pour décrire le comportement de Duplessis vis-à-vis des électeurs est « paroissial ». C'est une proximité qui a de grands avantages, enchaîne l'historien. Sa mémoire phénoménale le servait bien auprès de ses électeurs. Chaque électeur avait l'impression d'avoir un lien personnel avec lui. Il avait beaucoup d'organisateurs qui faisaient des tournées pour lui, donc il rejoignait tout le monde, explique Alexandre Dumas. Il avait ce talent de se présenter comme un homme du peuple, même si en réalité, c'était un fils de juge. En portant un vieux chapeau et en parlant de hockey, il arrivait à convaincre les gens qu'il était l'un des leurs. Chose certaine, en ne laissant personne indifférent, Duplessis va marquer sa province et sa ville. C'était, il y a 90 ans, Maurice Duplessis devenait le chef, un texte de Félix Ouellette paru le 16 août 2026 dans Radio-Canada.
L'intelligence artificielle encourage la paresse, à nous de résister. Un texte de Mathieu Perrault, publié dans la presse du 16 août 2026. Comment éviter de déléguer son jugement à l'intelligence artificielle, voire de nuire à ses apprentissages en y ayant trop recours? Des études mettent en lumière des solutions pour contrer les pièges de l'IA en éducation et au travail, et pour en maximiser les effets positifs. Abdication cognitive. La moitié des étudiants d'un club d'échecs s'entraînant sur une plateforme assistée par l'intelligence artificielle pouvaient demander de l'aide à l'IA quand elle le voulait. L'autre moitié y avait accès seulement une fois par heure. Cette expérience de Stéphanos Poulidis, ingénieur informatique de l'Institut européen d'administration des affaires en France, a montré l'un des grands dangers de l'intelligence artificielle. Les élèves qui avaient un accès illimité à l'IA apprenaient deux fois moins vite que les autres. Citation : L'intelligence artificielle peut avoir des effets négatifs même chez les gens motivés à apprendre, qui font partie d'un club d'échecs, dit M. Poulidis, fin de citation, qui a publié son étude sur le site de pré-publication économique SSRN. Une autre étude, menée par des neuroscientifiques de l'Université de Pennsylvanie, a donné un nom à ce risque, l'abdication cognitive. Citation : Les étudiants qui utilisent le plus l'intelligence artificielle ont de bonnes réponses et de mauvaises quand l'IA se trompe, dit Stephen Shaw, l'un des co-auteurs de cette étude, aussi publiée sur SSRN. Ne jamais apprendre. Le risque est critique en médecine, selon une analyse de chercheurs d'écoles de médecine américaines, britanniques et de Singapour, publiée en mai dans Nature Medicine. Il y a peu d'études portant spécifiquement sur l'impact de l'IA sur les compétences des médecins. Citation, mais on a beaucoup de preuves de son impact dans d'autres domaines de l'éducation, explique Liu Nan des universités Duke et de Singapour en entrevue alors qu'il assistait à un congrès sur l'intelligence artificielle à Toronto. En médecine, l'IA pourrait générer une forme de désapprentissage, explique M. Nan, qui cite une étude polonaise publiée en 2025 dans le Lancet. Selon cette étude, les gastro-entérologues qui font des endoscopies assistées par l'IA font 6 % plus d'erreurs quand ils sont privés de l'IA. Citation : S'ils peuvent y avoir du désapprentissage en médecine, ça signifie qu'il peut aussi y avoir du non-apprentissage, en anglais « never skilling », souligne M. Nan. Pour conserver les aptitudes des médecins, cruciales pour la société, les écoles de médecine doivent encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Fin de citation. Forçage cognitif. Fort heureusement, il existe des pistes de solutions pour induire ce que les chercheurs appellent le « forçage cognitif », entre guillemets, parenthèse, bref, se forcer les méninges, fin de parenthèse. À commencer par simplement limiter l'accès à l'intelligence artificielle. ce que des chercheurs américains ont démontré en menant une expérience auprès d'étudiants en nutrition. Les étudiants apprenaient mieux lorsqu'ils n'avaient pas accès en tout temps à l'IA ou encore lorsqu'ils devaient patienter 2 minutes avant d'avoir les réponses de l'IA. Citation, ce simple délai permet à l'étudiant de réfléchir aux réponses possibles, explique la co-auteure Zana Bursinica, informaticienne du Massachusetts Institute of Technology. L'étude a été publiée en 2025 dans la revue de l'Association for Computing Machinery. Une autre solution, cette fois tirée d'une étude de l'économiste Alp Sungu. Alp, A-L-P, et Sungu, S-U-N-G-U, de l'Université de Pennsylvanie. Impliquer les professeurs. Devant un problème de mathématiques, les participants apprenaient mieux lorsque l'intelligence artificielle répondait d'abord avec des suggestions conçues par un professeur au lieu de donner directement la réponse. Inégalité entre étudiants. Selon certains experts, l'intelligence artificielle pourrait accroître les inégalités scolaires. Les élèves de classes sociales favorisées pourraient être davantage portés à utiliser ces stratégies visant à favoriser les apprentissages, selon Stéphanos Poulidis. Citation, les étudiants défavorisés ont en moyenne moins de motivation à apprendre à l'école, souvent pour des raisons familiales, dit M. Poulidis. Et les étudiants moins motivés à apprendre sont plus susceptibles d'utiliser l'IA d'une manière moins optimale pour l'apprentissage. Fin de citation. Par contre, certains étudiants défavorisés et particulièrement motivés pourraient tirer énormément profit de l'intelligence artificielle, selon Mark Stevers de l'Université de Californie à Irvine. Citation. Ça pourrait égaliser leurs chances éducatives par rapport aux étudiants plus favorisés, fin de citation, estime le psychologue de l'Université de Californie à Irvine, qui a démontré en 2024 dans Nature Machine Learning que les gens s'associent le ton assuré des réponses IA à leur fiabilité. Citation, même si les réponses IA sont parfois erronées, et qu'en s'y fiant totalement, on apprend moins. Pour les étudiants qui, de toute façon, ne sont pas intéressés par l'apprentissage, l'intelligence artificielle donne des réponses très souvent bonnes. Fin de citation. M. Stever est d'ailleurs sceptique envers la création d'outils IA éducatifs qui ne donnent pas la réponse immédiatement. Citation, le marché favorise ce que les consommateurs cherchent, la récompense immédiate, et une réponse avec un ton assuré, dit-il. Il faudra que les étudiants fassent l'effort de se passer de cette récompense immédiate s'ils veulent bien apprendre. Fin de citation. L'étude de Zana Bursica du MIT montrait d'ailleurs que les outils IA meilleurs pour l'apprentissage sont moins appréciés des étudiants. Et si l'intelligence artificielle au travail devient très efficace en commettant peu d'erreurs, les étudiants plus paresseux pourraient en bénéficier, dit Alp Sungu. Citation, l'IA aide à avoir des connaissances, pas à avoir de l'expérience, dit M. Sungu. Si les connaissances de l'intelligence artificielle suffisent à bien faire son travail, les étudiants médiocres vont en bénéficier. Fin de citation. Impact du progrès. Les plus optimistes diront aussi que plusieurs avancées technologiques éducatives ont modifié l'apprentissage dans les dernières décennies. Citation, tout outil change notre manière de penser, rappelle Danny Oppenheimer, psychologue à l'Université Carnegie Mellon à Pittsburgh, qui étudie depuis 30 ans la psychologie cognitive. Il s'intéresse en particulier aux réactions instinctives des gens face à des situations de prime abord incompréhensible. Citation, prendre ses notes à l'ordinateur, avoir un correcteur d'orthographe, les médias sociaux, la télévision, la radio, la calculatrice. Dans le dernier siècle seulement, beaucoup d'exemples montrent que l'humanité tire en moyenne profit des changements technologiques, plutôt que d'être passive face aux changements cognitifs que ces technologies entraînent. Fin de citation. Mais l'effet n'est pas uniquement positif. M. Oppenheimer a publié en 2014 une étude montrant que prendre ses notes sur un ordinateur plutôt qu'avec un papier et un crayon affecte l'apprentissage. Pourquoi? Parce qu'en prenant des notes avec un crayon, les étudiants ont tendance à résumer, donc à réfléchir davantage à ce qu'ils entendent. Cela dit, certains groupes tirent avantage, profit des progrès technologiques. Si on arrive à avoir la discipline pour accepter le forçage cognitif et ne pas accéder à l'IA en tout temps, l'intelligence artificielle pourrait agir comme une forme d'assistant pour les élèves, selon M. Oppenheimer. Citation. Actuellement, les enfants des familles riches fréquentent des écoles exceptionnelles qui ont pratiquement un ratio d'un éducateur par élève pour les enfants qui ont de l'intérêt pour l'éducation, dit-il. Avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir avoir un tel ratio dans n'importe quelle école. Fin de citation. Les coupes dans les études portant sur les groupes défavorisés sous l'administration Trump complique l'étude de cette question, déplore M. Oppenheimer. Des coupes qui, selon lui, découlent d'une volonté de contrer les critiques de la suprématie blanche. Les filles risquent d'être plus à même de se discipliner pour tirer profit de l'intelligence artificielle en éducation, selon Danny Oppenheimer et Stefanos Poulidis. Les études ont montré qu'elles ont davantage la capacité de retarder la gratification que les garçons, pour des raisons qui devront faire l'objet de recherches subséquentes. En terminant, quelques données statistiques provenant de Statistique Canada. 66%, c'est la proportion des Canadiens travaillant en services professionnels scientifiques et techniques qui avaient utilisé l'intelligence artificielle générative dans les 12 mois précédant mars 2026. 59%, c'est la proportion des Canadiens travaillant en services financiers et immobiliers qui avaient utilisé l'IA durant la même période. 53%, c'est la proportion des Canadiens travaillant en enseignement qui avaient utilisé l'intelligence générative. Enfin, la proportion des Canadiens travaillant en transport et entreposage qui avaient utilisé l'intelligence artificielle générative est de 21%. De cet article de Mathieu Perrault titré « L'IA encourage la paresse, à nous de résister », publié dans la presse du 16 août 2026.
Le milieu communautaire aux prises avec une crise aux multiples visages. Un texte de Amy Bélanger, paru le 24 juillet 2026 dans Radio-Canada Info, Bas-Saint-Laurent. Les problèmes de santé mentale, d'itinérance et de dépendance sont de plus en plus nombreux et imbriqués, constate la Fondation Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent dans un mémoire publié mardi. Selon Centraide, la pression augmente sur les organismes d'aide, d'hébergement et de réinsertion sociale en raison des situations complexes que vivent leurs usagers. Centraide a relevé les principaux constats de ces organismes associés des régions de la capitale nationale, de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent à partir des demandes de subventions reçues entre 2022 et 2025. La Fondation les a regroupés dans un mémoire à l'attention du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec. Ce qui ressort du mémoire se résume en un mot, polycrise. Il est question de la pénurie de logements abordables, de l'augmentation de l'insécurité alimentaire, des pressions financières et de l'isolement social auquel s'ajoute un manque de services adaptés et de réseaux de soutien. Conséquences, des personnes fragilisées, vulnérables, avec des problèmes de santé mentale, d'itinérance et de dépendance qui s'imbriquent et qui complexifient leur parcours. On parle de comorbidité. On ne peut plus traiter une cause isolément, affirme le directeur régional de Centraide Bas-Saint-Laurent, Akotchaye Lawinor. Ça nous ramène à quelque chose qui est fondamental, l'effet systémique de la pauvreté. La mémoire de Centraide appelle ainsi à dépasser l'analyse des causes individuelles et des symptômes pour porter un regard attentif sur les déterminants sociaux et les choix collectifs qui façonnent concrètement les conditions de vie des personnes. Une plus grande pression sur les organismes communautaires. Sur le terrain, l'interconnexion entre les problèmes d'itinérance, de détresse psychologique et de consommation complique le travail des personnes intervenantes, selon Centraide. Exemple de constat d'organismes du bassin Laurent, organisme aux trois mâts, Rimouski. État de situation sur le terrain, 758 accompagnements individualisés avec des personnes ayant une dépendance ont été réalisés en 2023-2024, comparativement à 578 l'année d'avant, une augmentation de 31%. Organisme La Bouffée d'air du KRTB, Rivière-du-Loup. État de la situation sur le terrain, les séjours en hébergement sont plus longs en raison de la complexité des situations de certains usagers. 30% des demandes reçues proviennent de personnes faisant face à des enjeux combinés de santé mentale et d'itinérance. Organisme La Maison de l'Espoir, Montjoly. État de situation sur le terrain, augmentation du nombre de refus pour le service d'hébergement, car de nombreuses personnes présentent des enjeux de consommation. Plusieurs présentent aussi des problèmes de santé mentale non pris en charge. Ces observations ont été transmises par le mémoire au gouvernement du Québec pour l'aider dans l'élaboration de son prochain plan de lutte contre la pauvreté. Centraide y propose quelques recommandations, parmi lesquelles la mise en place d'une forme de gouvernance intégrée. C'est de ne plus travailler chacun isolément, explique M. Lawin Orr. Pas forcément avoir une table de concertation, parce qu'il y en a plein, mais créer un réseau qui permet d'assurer une certaine cohérence dans les différentes actions qu'on met en place, complète-t-il. La Fondation demande également au gouvernement d'augmenter le soutien à la mission des organismes, l'une des demandes phares de la mobilisation du mouvement Le Communautaire à bout, au printemps dernier. Une autre recommandation aussi, c'est de reconnaître l'expertise du terrain des organismes communautaires, poursuit M. Lawin Orr. Il plaide pour que les acteurs du communautaire soient autour de la table en amont des réflexions sur les plans d'action de lutte contre la pauvreté du gouvernement. C'était Le milieu communautaire aux prises avec une crise aux multiples visages, un texte de Émilie Bélanger, paru le 24 juillet 2026 dans Radio-Canada Info, Bas-Saint-Laurent.